Suivez Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous parlons aujourd'hui des troubles urinaires dans Priorité Santé. Un certain nombre de ces problèmes liés à la miction, à la vessie, peuvent être aussi simples à traiter qu'impossibles à supporter de par leur caractère envahissant, obsédant et parfois répétitif. Irritation, brûlure, incontinence, énurésie, dysfonctionnement très ponctuel ou à l'inverse, signe annonciateur de problèmes de santé plus conséquents. Pas simple en tout cas pour beaucoup d'entre nous d'en parler, d'aborder dans les détails les symptômes de ces maladies urinaires, question taboue, sauf bien sûr chez les enfants pour qui l'acquisition de la propreté fait partie de ces petites étapes, ces petites victoires de la vie qui aident à grandir. Pas simple d'en parler et pourtant les traitements existent. Certains conseils peuvent vraiment améliorer le quotidien des personnes concernées par ces infections à répétition ou par un problème d'incontinence qui pourrait trouver une amélioration, pourquoi pas une solution, et au moins passer le cap, oser poser des questions pour obtenir déjà des explications, lever certaines inquiétudes. C'est ce que nous vous proposons au cours de cette émission durant laquelle nous allons vous donner largement la parole. Et pour répondre à toutes ces questions sur les troubles urinaires, questions que vous avez posées sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro 33 84 22 75 75, en direct avec nous, le docteur Sabrina Benbouzid, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgienne urologue à l'hôpital Tenon à Paris. Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
J'employais tout à l'heure l'expression du tabou des troubles urinaires. Alors, est-ce que c'est vraiment encore le cas aujourd'hui? Par exemple, docteur Sabrina Benbouzid, est-ce que certains patients qui viennent en consultation reconnaissent avoir un petit peu retardé, repoussé le moment du rendez-vous par peur, par gêne d'en parler?
Bien sûr, c'est un motif assez fréquent, notamment les fuites urinaires chez la femme. Moi, j'ai beaucoup de patientes qui ne veulent pas en parler. Ou bien, l'autre chose aussi, souvent, leur maman avait des fuites, leur grand-mère avait des fuites, donc elles prennent ça un peu pour une fatalité. Elles se disent, c'est normal, moi aussi j'ai le même problème. Et ensuite, elles vont voir une émission à la télé, écouter notre émission à la radio, elles vont se rendre compte qu'il existe des solutions. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont oser en parler peut-être à leur généraliste ou directement prendre rendez-vous avec un urologue pour voir s'il n'existe pas des solutions qui leur permettraient d'améliorer leur qualité de vie. Parce que souvent, il y a une altération, il y a une gêne au quotidien. Il y a des activités qu'on ne s'autorise plus à faire. Des fois, on n'ose plus sortir de chez soi pour les cas les plus extrêmes. Et donc, c'est grâce à certaines émissions qu'on va se rendre compte qu'il existe des solutions et que c'est bien d'aller en parler avec un spécialiste.
Et autant on ne vante pas souvent les vertus, s'il en est, de la publicité, mais pour le coup, peut-être que ça décomplexe aussi d'avoir des annonces publicitaires qui disent « il existe des protections, il existe des solutions, et puis il n'y a pas de quoi en avoir honte ».
Effectivement. C'est bien aussi de consulter un spécialiste. Ça,
tout à fait, ça veut dire que ce n'est pas du tout la solution.
C'est pas la solution. C'est quelque chose qui permet de passer un peu un cap, mais c'est important d'aller voir un spécialiste parce que des fois, il existe des solutions qui permettent justement d'éviter les garnitures ou les protections.
Alors, comme on a parfois du mal à en parler, on a un petit peu parfois du mal à cerner ce dont on parle précisément, docteur Benbouzid, quels sont les organes, les parties du corps qui sont inclus dans ce qui est désigné par appareil urinaire?
Alors, ça va inclure les reins, mais ça va inclure la vessie et le canal urinaire. Ça, c'est chez la femme. Chez l'homme, il va y avoir en plus du canal urinaire la prostate. Voilà.
Donc, c'est un ensemble et tous les troubles peuvent concerner ces différentes parties du corps. On parle bien sûr des troubles au féminin, au masculin. On ne va bien sûr pas faire un inventaire, pas faire une liste. Mais justement, par exemple, les pathologies typiquement masculines, on imagine bien sûr ce qui est lié à la prostate, est typiquement féminine, docteur Benbouzid.
C'est plus l'incontinence urinaire qui va débuter. Alors, soit c'est l'incontinence urinaire, soit c'est les problèmes de cystite qui peuvent également invalider les femmes. Et l'incontinence urinaire, c'est des fuites d'urine qui peuvent survenir soit à l'effort, soit sur une envie pressante. Et du coup, on peut avoir du coup le délai entre l'envie pressante et le fait d'aller aux toilettes qui va se raccourcir. Et du coup, malheureusement, quand on n'a pas un toilette à proximité, on peut avoir du coup une fuite d'urine.
L'incontinence au féminin, c'est très souvent associé à une suite de grossesse ?
C'est très souvent associé à une suite de grossesse. Et ça, c'est l'incontinence urinaire à l'effort. C'est quand on va tousser, quand on va rigoler, ça survient souvent chez les femmes qui ont eu des enfants, mais ça peut également survenir chez les femmes qui ont pris beaucoup de poids ou qui ont une toux chronique. Du coup, ça va solliciter beaucoup le périnée parce qu'il y a le fait de tousser ou le fait d'avoir pris beaucoup de poids, ça augmente la pression abdominale et donc du coup, ça appuie sur le plancher pelvien et du coup, ça peut être à l'origine de fuite urinaire.
Alors, on parle aussi d'envie pressante, des besoins impérieux. Qu'est-ce qui va distinguer, docteur Sabrina Benbouzid, on va dire une envie d'uriner tout à fait ordinaire, normale, d'une manifestation qui, elle, doit pousser peut-être à s'interroger ou aller voir un médecin?
Alors, c'est les besoins impérieux qui vont, du coup, nous amener à consulter un médecin. C'est des besoins qui sont brutaux, qui sont anormales. C'est des patientes qui, lorsqu'elles sortent de chez elles, elles vont baliser le trajet en se disant « voilà, là, si j'ai une envie, je vais pouvoir aller aux toilettes là ». C'est des patients qui systématiquement vont repérer les toilettes, quel que soit l'endroit où ils sont en fait. Et c'est vraiment des envies qui ont un caractère vraiment anormal. C'est un besoin très très pressant et souvent pour des vessies qui sont à peine pleines en fait. Et il y a le côté aussi où on va très 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 souvent faire pipi.
Aussi la fréquence. Alors justement, certains symptômes en soi, c'est le problème, docteur Benbouzid. Par contre, certains symptômes, ils peuvent cacher un petit peu, donner l'alerte sur d'autres problèmes de santé.
Tout à fait. Ces envies pressantes d'aller faire pipi peuvent être causées effectivement par un peu d'hyperactivité. C'est la vessie qui se contracte toute seule et ça, il n'y a pas de cause et on va proposer un traitement. Mais des fois, c'est des symptômes d'alerte. Ça peut être le symptôme d'une cystite. C'est une infection de la paroi de la vessie provoquée par des bactéries. Ça peut être également la manifestation de chez quelqu'un qui fume. Ça peut être la manifestation d'un polype de la vessie. Ça peut être également lié à un calcul, donc c'est pour ça qu'il faut consulter un spécialiste. Le spécialiste va faire un minimum d'investigations qui sont une analyse d'urine, une échographie de l'appareil urinaire qui permet d'éliminer du coup un calcul, un polype. Et ensuite, secondairement, on va dire c'est de l'hyperactivité de vessie, c'est-à-dire que la vessie se contracte toute seule et il n'y a pas de cause parce qu'on a éliminé les facteurs favorisants qui peuvent masquer. Mais c'est important de consulter un spécialiste lorsqu'on a ces symptômes.
En tout cas, vous avez souligné quelque chose de très intéressant, c'est le lien entre le tabac et l'appareil urinaire, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent.
Tout à fait. Le tabac peut provoquer des cancers de la vessie. C'est un facteur favorisant. C'est le deuxième cancer après le poumon. En fait, on est très sensibilisé par rapport au cancer du poumon, mais le cancer de la vessie existe. Ça va se manifester par des envies beaucoup plus pressantes, des symptômes où l'on a un peu des brûlures, un inconfort. Et surtout, le principal symptôme, c'est le sang dans les urines. Ce n'est pas normal d'avoir du sang dans ses urines. Et chez quelqu'un qui fume, on doit faire des investigations supplémentaires dès qu'il y a ces symptômes d'alerte.
Est-ce qu'il y a des personnes, docteur Sabrina Benbouzid, qui ont des infections urinaires sans ressentir de douleur?
Ça peut arriver. Alors, souvent, c'est des patientes qui ont fait beaucoup, beaucoup de cystites et qui, du coup, ont des seuils de tolérance à la douleur qui ne sont pas les mêmes, en fait. Et donc, du coup, malheureusement, c'est des patientes qui ont l'habitude de souffrir ou d'avoir tout le temps une gêne et qui, du coup, ne ressentent même plus ce stimuli, en fait, parce que pour elles, c'est leur état de base normal, en fait. Et du coup, oui, effectivement, elles ont des infections, elles ne s'en rendent pas compte. Et du coup, malheureusement, cette infection urinaire de la vessie va remonter jusqu'au rein et ça va donner ce qu'on appelle une pyélonéphrite. C'est une infection au niveau du rein qui, elle, par contre, est grave parce que ça peut des fois nécessiter une hospitalisation, ça peut donner des abcès au niveau du rein, c'est quelque chose qui peut être grave. Donc c'est pour ça que une cystite, il y a la douleur, mais il y a d'autres symptômes qui sont des urines qui ne sentent pas très bon. On peut avoir un peu de sang effectivement dans les urines, ou on va faire pipi plus fréquemment que d'habitude, qui peuvent être d'autres symptômes d'alerte.
Alors, je vous soumets un message Facebook envoyé une auditrice de Priorité Santé. On revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Cette auditrice, c'est Djeneba du Burkina Faso. Elle nous dit beaucoup de personnes âgées, d'ailleurs sans distinguer homme ou femme, beaucoup de personnes âgées n'arrivent pas à garder leur urine longtemps et ont parfois des fuites urinaires. Qu'est-ce qui provoque ça, docteur Sabrina Benbouzid? On a répondu tout à l'heure peut-être pour les femmes. Pour les hommes, peut-être que ce n'est pas tout à fait la même réponse.
Non, c'est pas tout à fait la même réponse parce que pour les hommes, c'est souvent la prostate qui est en cause. Et pareil, ça peut aussi être une infection. Donc, c'est important d'éliminer l'infection. Et après, effectivement, la prostate chez l'homme, elle va gonfler. Et du coup, elle va entraîner des symptômes aussi d'aller faire pipi plus fréquemment. Et des fois, ça peut aller jusqu'à ce que, jusqu'à des fois, la perte d'urine, en fait. Parce que des fois, la vessie se vide pas bien. Ou bien parce qu'il y a une prostate qui va soulever un peu la vessie, enfin le plancher de la vessie, va donner du coup ce côté très irritatif où on a envie de faire pipi très fréquemment, où on est très inconfortable. Donc c'est pas complètement les mêmes mécanismes chez l'homme et chez la femme.
Et une autre question, là, c'est Fred du Gabon qui nous l'a mis sur la page Facebook de l'émission. Quel risque encourt-on en gardant les urines en soi, en se retenant d'aller aux toilettes pour uriner, docteur Ben Bouzid?
Alors, ce n'est pas du tout une bonne chose, hein. Il faut, quand on a envie de faire pipi, il faut aller vider sa vessie. Alors, à court terme, le fait de ne pas aller faire pipi fréquemment, on va favoriser les cystites ou les infections urinaires. Ensuite, à long terme, quelqu'un qui ne vide quasiment jamais sa vessie, il va il peut, en dehors des problèmes de cystite, il va à ce moment-là, il peut aller jusqu'à esquinter ses reins, en fait. Parce que du coup, les urines, lorsqu'elles ne sont pas évacuées, il va y avoir du coup un résidu et ça peut remonter au niveau des reins, donc ça peut esquinter les reins. Donc il faut aller vider sa vessie régulièrement. Il ne faut pas garder les urines.
Alors, on va partir tout de suite pour la République démocratique du Congo. On doit donner la parole à Bob. Il a enregistré un message sur notre répondeur. On l'écoute.
Bonjour Madame Caroline, bonjour docteur, bonjour à tous les auditeurs de Priorité Santé. Je me nomme Bob, j'appelle de Kinshasa, j'ai 31 ans. J'ai beaucoup de mal à uriner, normalement. En fait, à chaque fois que j'ai cette envie physiologique, je ressens de fortes douleurs au niveau de l'urètre. J'ai les sensations d'éjaculer avant d'uriner et ces sensations bloquent l'élan de sécréter l'urine. J'ai de fortes douleurs et des brûlures très inconfortables. Il arrive des fois où je suis obligé de pisser en pointillé vu cet inconfort. Mon problème dure depuis presque 12 ans déjà. J'ai consulté à 2 reprises un médecin, mais aucun remède ne m'a été proposé, hormis les antibiotiques. J'ai longtemps cru qu'il s'agissait d'une inflammation de la prostate. Mais vu mon âge, 31 ans, je rappelle, cette hypothèse a été rapidement écartée de mon cerveau en suivant également l'une de vos anciennes émissions sur la prostate en 2019. Alors aujourd'hui, j'ai encore du mal à en parler, c'est vrai, surtout dans mon entourage, mais je passe plusieurs minutes aux toilettes rien que pour uriner, jusqu'à environ 7 minutes de fois. Et il y a des jours où je me rends aux toilettes sans uriner et je ressors comme cela. J'ai longtemps été accro à la masturbation. Je ne sais pas si cela aurait affecté mon système ou peut-être autre chose, ça je ne sais pas, madame. Mais j'aimerais recevoir des conseils ou des recommandations de votre part. Merci.
Alors Bob de Kinshasa, hein, qui a des questions sans réponse depuis longtemps, il a bien décrit la difficulté à uriner normalement. Bien sûr, comme on ne l'a pas en direct, c'est difficile pour rebondir sur certains points pour lui reposer d'autres questions. Mais après cette description assez précise, docteur Sabrina Ben Bouzid, qu'est-ce que vous pouvez dire à Bob?
Alors déjà, la masturbation, c'est pas du tout quelque chose qui va dégrader sa symptomatologie urinaire.
Donc
hein,
déjà, ça c'est écarté.
Voilà, ça on écarte. Hein, il faut pas qu'il culpabilise par rapport à ça. Ensuite, il y a effectivement la prostate, mais il y a également le canal urinaire. Donc chez Bob, il faudrait s'assurer que le canal urinaire qui va de la vessie jusqu'au bout de la verge est bien perméable. Parce que des fois, il y a certaines infections urinaires qui sont des urétrites, qui vont entraîner une inflammation de l'urètre, qui peuvent avec les antibiotiques disparaître, mais qui peuvent donner des séquelles qui sont des rétrécissements de calibre. Donc, ça donne ce qu'on appelle des sténoses. Et donc, du coup, ça fait qu'on a du mal à uriner. On fait pipi au goutte à goutte. Donc, c'est pour ça que les jeunes, moi, j'évoque un rétrécissement du canal urinaire qu'il faudrait explorer. Donc, ça peut se voir avec une échographie, déjà, qui permettrait d'objectiver le fait qu'il ne vide pas bien sa vessie. Et ensuite, il faudrait qu'avec une caméra, qu'on aille voir dans le canal urinaire, donc ça se fait sous anesthésie générale, pour voir si ce canal est perméable ou pas. Et ça, c'est important de le faire parce que le risque, c'est qu'à force de ne pas bien vider sa vessie, il va, d'une part, il risque des infections, et deuxièmement, il va esquinter sa vessie qui peut avoir un retentissement sur ses reins. Donc, moi, je ferai des explorations dans ce sens-là.
Alors, on comprend bien que l'exploration est assez invasive. C'est sous anesthésie, donc il ne sentira rien. Par contre, c'est pas forcément évident de trouver peut-être le lieu pour le faire au niveau de Kinshasa. Si jamais c'était positif, si jamais l'exploration révélait une sténose, qu'est-ce que ça voudrait dire? Il faudrait qu'il y ait un geste chirurgical derrière?
Tout à fait. Il y a un geste qui est peu invasif, hein, qui consiste juste à inciser la sténose et à mettre une sonde urinaire qui permettrait la cicatrisation du canal urinaire avec un calibre suffisant, en fait. Donc c'est pas quelque chose de...
Donc il y a vraiment une solution, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a une solution qui peut vraiment, on va dire simplement le mot, le guérir.
Tout à fait.
Donc c'est important de dire ça à Bob. Il faut au moins dans un premier temps aller faire cette échographie. Une échographie de ce type dans cette sphère-là, c'est dans un service spécialisé ou ça peut être dans n'importe quel grand hôpital?
Ça peut être dans n'importe quel grand hôpital. C'est une échographie où on va lui demander de boire beaucoup d'eau avant pour que la vessie se remplisse. On fait une échographie pour voir que la vessie est bien pleine. Ensuite, on lui demande d'uriner et on refait l'échographie derrière qui permet de mesurer la quantité d'urine qui reste dans la vessie.
Donc, c'est déjà le premier examen.
Okay. Tout à fait.
Okay. Voilà pour cette réponse à Bob. On va partir tout de suite maintenant pour l'Afrique du Sud, pour le Cap. Autre message d'auditeur. Cette fois, c'est patient avec cette question pour vous. On l'écoute.
Bonjour Caroline. Bonjour les auditeurs de la radio RFI. Moi, c'est patient Umbakantanga. Je suis né en 1986. Je vous appelle à partir du Cap des Bonnes Espérances, Cape Town en Afrique du Sud. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir quand est-ce qu'on peut parler de l'apolakiri. Je l'ai vécu avec mon oncle paternel qui était déjà âgé de 70 quelques années. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est l'apolakiri du tout.
Docteur Ben Bouzid, qu'est-ce que c'est que ce mot, apolakiri? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, la polakiri, c'est un terme urologique qui désigne le fait d'aller faire pipi très fréquemment, en fait. Alors, quelqu'un qui va boire 2 litres de boisson par jour, on considère que c'est normal d'aller uriner 7 fois dans la journée et on considère que la nuit, on peut se lever une fois. Au-delà de ce nombre de fois, c'est-à-dire que lorsque si on fait pipi plus que 7 fois, on parle de polakiuri diurne, parce que diurne, c'est la journée. Et lorsqu'on se lève plus d'une fois la nuit pour aller uriner, on parle de polakiuri nocturne. Donc ça veut dire que ça quantifie la fréquence d'aller uriner qui est pathologique, c'est-à-dire qu'elle est au-delà de ce qu'on est censé faire, parce qu'on estime que si on fait pipi plus que 7 fois dans la journée, bah on a quand même un retentissement sur sa qualité de vie, parce que du coup, voilà.
Tout à l'heure, on parlait de la fréquence, de la nécessité d'aller uriner et de maladies, on va dire, sous-jacentes. C'est le cas aussi quand on évoque parfois le diabète, pourquoi ?
Parce que le diabète va faire qu'on va boire beaucoup d'eau, mais de façon très anormale. Et donc, du coup, les reins vont filtrer du coup cette eau et du coup, ça va entraîner une augmentation de la quantité de production d'urine. Et donc, du coup, on va faire pipi très, très, très fréquemment. Et c'est un mode de découverte du diabète.
Ok, un appel du Sénégal maintenant. De Dakar, c'est Jabir. Il nous a laissé ce message, là encore, sur notre répondeur.
Bonjour Caroline, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Jabir Henri Fan, je suis un étudiant d'origine comorienne. J'ai une sœur âgée de 12 ans qui présente une énurésie nocturne depuis son enfance jusqu'à présent. Je voulais savoir la conduite à tenir et les mesures à prendre pour l'aider à s'en sortir dans cette situation. Merci Caroline, merci docteur Jabir Henri Fan, Dakar RFI.
Alors, tout à l'heure, on a eu une première définition, un polyacurie. La énurésie, beaucoup de gens savent ce que c'est, mais on va quand même le rappeler si vous le voulez bien.
Bien sûr. Alors, l'énurésie, où c'est le terme, c'est le pipi au lit, c'est le fait d'uriner la nuit de façon incontrôlable et irrépressible durant son sommeil. C'est fréquent chez les petits.
Alors là, une fillette de 12 ans, et ce que dit Jabir, c'est que c'est depuis qu'elle est petite, donc il ne dit pas qu'il y a eu un moment donné où elle a acquis cette propreté nocturne, apparemment c'est depuis toujours.
Alors, lorsque c'est depuis toujours, ça peut être lié soit à un manque de maturité du système urinaire, c'est-à-dire que le système urinaire n'est pas encore assez mature. Il y a aussi des formes héréditaires. Souvent dans la famille, le papa, la maman, les frères et sœurs ou les oncles ont fait pipi au lit un peu tardivement. Mm-hmm. L'autre chose, ça peut être aussi des patients, des enfants qui ont des sommeils qui sont très, très, très profonds, ce qui fait qu'ils ne vont pas percevoir le stimuli d'avoir envie d'uriner. L'autre chose, il y a la constipation. Par contre, lorsque les diurésie va survenir, c'est-à-dire c'est un enfant qui va être propre et ensuite qui va se remettre à faire pipi au lit, il faut se poser la question d'un contexte psychologique. Est-ce que l'enfant, ça peut être un signe d'appel de souffrance? C'est la façon dont il va verbaliser. Donc, il faut se poser la question, est-ce que il n'y a pas eu un traumatisme? Est-ce que ça se passe bien à l'école? Est-ce que il n'y a pas eu aussi des attouchements? Est-ce qu'il y a une situation qu'il ne vit pas bien? Et ça, il faut être amené à soit discuter avec l'enfant, soit faire appel à une tierce personne qui peut être un psychologue qui va permettre de comprendre ce qui se passe dans la vie de cet enfant et pourquoi il se remet à faire pipi la nuit alors qu'avant il ne le faisait pas.
Bien évidemment, on ne demande pas à l'enfant pourquoi est-ce que tu fais pipi au lit, mais on va engager une discussion, par exemple, en disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a embêté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a un petit peu approché, qui a touché, qui t'a touché à un endroit où il ne faut pas et que ça t'a embêté, etc. Donc, il y avait avec des mots d'enfant.
Avec des mots d'enfant simples, quitte à le faire dessiner aussi. Des fois, le fait de le faire dessiner, parce que des fois, l'enfant ne peut pas verbaliser parce qu'ils n'ont pas forcément les mots pour exprimer. Mais des fois, par le dessin, ils peuvent montrer des choses ou exprimer des choses. Donc, il faut aussi peut-être faire des schémas aux petits pour qu'ils nous expliquent pourquoi ça ne va pas.
Alors, dans les idées reçues, parfois, on dit il vaut mieux arrêter de boire à partir de telle heure ou telle heure. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est une bonne chose. Dans les conseils pour les enfants qui font pipi encore au lit, alors, il faut les inciter à boire beaucoup moins d'eau à partir de ce qu'on appelle une restriction d'eau à partir de 17h-18h. La journée, il faut qu'ils s'hydratent bien, c'est très important. D'accord. Mais 17h-18h, on boit peut-être un verre d'eau, mais pas plus. L'autre chose, le transit doit être régulier. Il faut s'assurer que l'enfant n'est pas constipé. Et ensuite, il faut l'inciter à uriner bien avant d'aller dormir. Il faut qu'il se couche également à heure fixe. Et l'autre chose qu'on peut proposer aussi, c'est de le réveiller au milieu de la nuit. Pour l'emmener aux toilettes,
pour l'aider.
Pipi.
Voilà. Quand vous faites le lien entre constipation et nurésie, justement, c'est quoi le lien entre les deux?
Alors, en fait, on s'est rendu compte que les troubles digestifs vont avoir un retentissement sur l'appareil urinaire. Parce que c'est à côté, en fait, anatomiquement, c'est très proche. Et en fait, le fait de réguler bien son transit va favoriser les troubles urinaires. En fait, ça va les résoudre. Par exemple, les causes de rétention, c'est-à-dire de blocage urinaire chez la femme, elles sont soit médicamenteuses, soit la constipation. Une forte constipation peut donner jusqu'à un blocage urinaire chez la femme. De même que la constipation peut favoriser les cystites, ça peut favoriser le fait d'aller faire pipi très fréquemment, parce que ça entraîne une espèce d'irritation locale qui va du coup avoir un retentissement sur l'appareil urinaire. Donc avoir un transit régulier va favoriser les troubles urinaires, en fait, ça va les permettre de les résoudre.
Alors avec Jabir, on avait un frère préoccupé pour sa petite sœur et maintenant on va donner la parole à un papa préoccupé, c'est Jean qui appelle de Djamena.
Bonjour chère Caroline et son invité, c'est Jean, je vous appelle depuis Djamena Tchad. J'ai ma fille de 8 ans qui a des troubles urinaires. Dans la journée, elle peut facilement faire pipi sur elle, surtout quand elle s'amuse avec ses amis. Et la nuit, c'est grave, elle baigne carrément dans son urine. Malgré qu'on la réveille plusieurs fois au milieu de la nuit pour se soulager. En temps, son oncle pédiatre l'avait suivi, mais sans succès. Sa maman qui supporte difficilement cette situation par rapport à nos pesanteurs socio-culturelles de la société tchadienne. Alors, je profite de l'occasion pour poser la question à l'invité. Quel est son réel problème et quelle solution vous nous suggérez?
Alors, bien sûr, difficile de trouver une solution comme ça à distance. Malgré tout, on entend vraiment le désarroi de ce papa, la maman qui supporte difficilement la situation. Peut-être une première chose, je sais bien que vous êtes chirurgienne, urologue, docteur Benbouzid, mais la première chose, c'est de ne pas peut-être disputer l'enfant, tout simplement.
Non, il ne faut pas le disputer, au contraire. Hein. Il faut être rassurant, il faut au contraire... Et lorsque l'enfant n'a pas d'accident la nuit, par exemple, il faut le valoriser, c'est très important, parce qu'il faut qu'il y ait un message positif. Cette petite fille, elle a. Alors, ça serait bien de savoir si déjà elle a été propre à une période. Si c'est pas le cas, il faut peut-être revoir un petit peu avec elle. Parce que j'ai l'impression qu'elle a. Elle a peut-être aussi ce côté où elle ne ressent pas l'envie de faire pipi parce qu'elle est très absorbée. Donc, lorsqu'elle joue avec ses camarades, pareil, lorsqu'elle doit peut-être dormir aussi très profondément la nuit. Donc, elle doit pas se ressentir cette envie. Donc, peut-être que la journée, il faut l'inciter à lui dire, voilà, toutes les 2-3 heures, il faut que tu ailles faire pipi. Et pareil, la nuit. Lui demander de pas trop boire, de faire ce qu'on appelle la restriction hydrique, d'encourager à faire pipi au milieu de juste avant d'aller dormir, et ensuite peut-être la réveiller la nuit parce qu'elle a peut-être un sommeil qui est très profond en fait.
Et justement, quand on réveille comme ça l'enfant la nuit, est-ce qu'il va réapprendre lui-même après à se réveiller tout seul? Est-ce qu'il va y avoir une sorte de rééducation pour un petit peu se régulariser?
Souvent, ça c'est quelque chose qui se fait au niveau familial. Hein. C'est la maman qui réveille. Après, quand l'enfant est un peu plus âgé, il met un petit réveil lui la nuit. Après, l'âge aidant, il y a le système urinaire devient beaucoup plus mature et du coup, ça rentre dans l'ordre en fait. Mais au début, c'est quand ils sont petits, c'est les papas et la maman qui vont du coup s'astreindre à se réveiller en même temps que le petit. Et par la suite, lorsque l'enfant est un peu plus grand, c'est une petite alarme au milieu de la nuit qui va du coup réveiller l'enfant et l'inciter à aller faire dodo, aller faire pipi, pardon.
On va marquer tout de suite une petite pause, docteur Sabrina Benbouzid, une respiration musicale avec Gorillaz et George Benson sur RFI et ce titre Humility. Calling the world from isolation. Cause right now that's the ball where we be chained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the picture's why I'm calling. Collaboration entre Gorillaz et George Benson, RFI, on se retrouve, priorité santé, on parle toujours, on répond aux questions de nos auditeurs, on parle des troubles urinaires, toujours en compagnie du docteur Sabrina Benbouzid, chirurgienne urologue à l'hôpital Tenon à Paris, et on répond aux questions des auditeurs en ligne de Guinée en direct. On retrouve Abakar, bonjour.
Bonjour, priorité santé, bonjour chers auditeurs et auditrices, bonjour Caroline Paré. Bonjour, docteur Sabrina Benbouzid.
Eh bien, bonjour. Voilà, les salutations sont faites. Abakar, on vous écoute. Racontez-nous ce qui vous arrive, allez-y.
Merci bien. J'ai 23 ans et je voudrais vous parler d'une maladie. À mon sens, ça me stresse beaucoup. Il s'agit de la colique néphrétique. Le début de la maladie remonte en 2011 quand je faisais la classe de 4e, marquée par une douleur d'installation brutale. C'est une douleur en coup de poignard, intense, je dirais même très intense, au niveau de la fosse lombaire qui s'irradiait vers les organes génitaux externes. J'étais hospitalisé. Le médecin calma la douleur par des antalgiques et autres. Une échographie fut réalisée et pour le médecin, je ne pouvais pas subir une intervention chirurgicale car la taille du calcul était à 3 mm. Ma maman me conseilla de boire en grande quantité l'eau Al-Moussafa, qui est d'ailleurs une eau très potable. Je précise que c'était elle, ma maman, qui était en contact avec le médecin. Pendant les mois qui ont suivi, la crise revenait de temps en temps. Depuis 2017, un autre problème apparaît. J'urine deux fois en 24 heures, rarement trois fois, et la quantité d'urine n'atteint pas 300 millilitres. Alors, ça m'inquiète petit peu. J'aimerais savoir, cette pathologie est-elle à l'origine de la diminution en nombre de fois et en quantité d'urine par 24 heures? Y a-t-il un rapport entre l'eau potable Al-Mustapha et la formation du calcul? C'est-à-dire, est-ce que la consommation d'eau potable comme Al-Mustapha diminuerait le risque de contracter la maladie? Une troisième question qui est d'ordre médical, celle de savoir par quel mécanisme se forme le calcul rénal.
D'accord. Non, alors, il y a beaucoup de choses. Abakar, quand vous nous parlez de cette marque d'eau, c'est parce que c'est de l'eau en bouteille et peut-être qu'elle est fortement minéralisée, c'est ça, dedans? Il y a par exemple peut-être beaucoup de calcium ou beaucoup de magnésium?
Justement, c'est oui, justement.
C'est une question là-dessus. Alors, par rapport à ce que vient de nous décrire Abakar, calcul rénaux, docteur Benbouzid, c'est ça? Et puis maintenant, cette difficulté à uriner, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Et peut-être que vous avez même des questions supplémentaires à lui poser.
Oui, alors, moi, je vais prendre le problème un peu différemment. Le fait d'avoir fabriqué un calcul, c'est souvent un manque d'hydratation. En fait, c'est une des causes principales de la fabrication des calculs. Donc moi, je pense que Monsieur Abakar, vous ne buvez pas assez d'eau en règle générale. En fait, il faut boire 2 litres de boisson par jour. Et vous, l'endroit où vous habitez, il faut peut-être même boire beaucoup plus que ça. C'est 3 litres. Voire, je ne sais pas les températures.
Il fait chaud en Guinée, hein, ça, il n'y a pas de problème. Voilà,
je pense qu'il fait extrêmement chaud et que en fait, là, actuellement, le fait que vous faites pipi 2 ou 3 fois par jour, c'est un manque d'hydratation, en fait. Et donc, du coup, il faudrait vraiment augmenter de façon très importante vos apports hydriques.
Abakar, justement, excusez-moi de vous couper. Abakar, vous buvez combien, justement? C'est important de le savoir. Par exemple, si vous dites « je bois de l'eau minérale », c'est des grandes bouteilles d'1,5 litre. Vous buvez du thé en plus. Vous en buvez combien de ces bouteilles?
Oui, je bois deux bouteilles.
Donc, ça fait 3 litres.
Associé à des boissons, oui. Le thé, des fois.
C'est bien des grandes bouteilles?
Oui, des grandes bouteilles de 1 litre et demi.
D'accord. Donc, il boit au moins presque 2 par jour.
Oui, au moins 2 par jour.
D'accord. Donc, vous en buvez. Et vous faites pipi que 300 millilitres, c'est ça?
Oui.
Et vous êtes gonflé? Vous avez les jambes gonflées? Vous avez des troubles digestifs?
Non.
On vous a refait une imagerie pour voir comment étaient les reins. Est-ce que les reins étaient pas dilatés? Est-ce que le calcul était bien parti? Est-ce qu'il y avait d'autres calculs qui étaient refabriqués ou pas?
Non, on n'a pas encore refait.
Ça serait peut-être bien de refaire l'échographie pour voir comment sont les reins. Parce que je suis très étonnée que si effectivement vous buvez bien 3 litres de boisson, il n'y ait que 300 millilitres d'urine, ce qui me paraît très peu. Je trouve qu'il y a ça serait bien de refaire un petit bilan avec une prise de sang pour voir comment fonctionnent les reins et faire une échographie aussi pour voir si déjà le calcul est bien parti, voir s'il n'y en a pas d'autres qui se sont formés et voir si les reins ne sont pas dilatés, ça serait bien.
Abakar, vous êtes en Guinée, mais vous êtes dans quelle ville? Il y a un service hospitalier où vous pouvez aller voir justement un service d'imagerie médicale qui va vous renseigner? C'est disponible près de chez vous?
Oui, c'est disponible ici à Conakry.
Et vous en avez les moyens financiers? Ça va être possible?
Bon, en tant qu'étudiant, oui, ça va être possible.
Ça va être possible parce que c'est important. La santé des reins, on sait que c'est très important. Ça compte pour toute la vie. C'est vraiment essentiel. Et ce conseil du docteur Benbouzid de retourner consulter parce qu'on a bien compris, ça dure depuis longtemps. Vous avez des questions. Il faut qu'il y ait un médecin près de chez vous qui puisse répondre à ces questions. C'est très important.
D'accord.
Docteur Benbouzid, allez-y.
Oui, ma troisième question qui est celle de savoir par quel mécanisme se forme le calcul rénal.
Alors, le calcul rénaux, c'est des petits cristaux qui sont fabriquées au niveau du rein, parce que il y a les urines qui sont fabriquées du coup par le rein. Il y a des anomalies en fait dedans, c'est-à-dire que des fois ils sont chargés de trop de certains éléments qui vont du coup cristalliser, fabriquer un calcul. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire un bilan pour voir un petit peu qu'est-ce qui fait dans vos habitudes, qu'est-ce qui fait dans votre corps qui favorise les fabrications de calculs. Souvent, c'est parce qu'on mange, on boit pas assez d'eau. Souvent, on mange trop salé, on mange trop de protéines. Et pareil, le calcium, en fait, c'est l'inverse. En fait, il faut qu'on ait des apports calciques. Mm-mm. Parce que si on mange pas assez de calcium, en fait, on sécrète au niveau de l'intestin de l'oxalate, qui va permettre de capter dans votre alimentation le calcium. Et cet excès d'oxalate, il est sécrété au niveau des urines et il va se cristalliser et fabriquer la fabrication de calcul, en fait.
Mm-mm. Donc, il faut boire beaucoup d'eau, avoir une alimentation équilibrée. Pas trop de sel surtout.
Oui, tout à fait.
Voilà, Bakar, merci beaucoup. Et je pense que après ce qu'on vous a dit, vous allez retourner consulter pour vérifier que tout se passe bien au niveau de vos reins. On va partir pour le Burkina tout de suite avec ce message qui est signé Paul.
Bonjour Caroline, bonjour toute l'équipe des priorités santé, bonjour docteur. Je m'appelle Paul. En 2018, j'avais une infection urinaire. Et ça a été guéri et je vais poser une question à savoir est-ce qu'il y aura une conséquence sur ma fertilité? Merci Caroline.
Docteur Benbouzid, question peut-être aussi une inquiétude que formule Paul au sujet d'un lien possible entre une infection urinaire passée, on l'a dit qui est guérie, c'est important, et sa fertilité, sa capacité à procréer. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Dans les infections urinaires, il faut distinguer. Alors, on a la majorité des infections, c'est des germes banaux qui vont pas avoir de conséquences sur la fertilité. Après, on a certains germes comme les chlamydiés, les gonocoques, qui peuvent effectivement avoir un retentissement sur la fertilité. Mais à partir du moment où ça a été traité, ça n'aura pas de conséquences. Là où ça va avoir un rôle sur la fertilité, ça va avoir un incidence sur la fertilité, c'est lorsque ces infections passent un peu inaperçues et qu'elles continuent de proliférer, et là, elles vont avoir des conséquences. Mais à partir du moment où il a été traité, pour moi, il n'y aura pas de problème lorsqu'il sera marié.
Donc, dans quelques années après, c'est quelque chose, une fois c'est traité, c'est réglé, le dossier est classé, on n'y pense plus.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, on aborde la dernière partie de notre échange, docteur Sabrina Benbouzid. On a bien perçu qu'il y avait de nombreux troubles urinaires, des réalités très différentes. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de questions d'auditeurs, assez peu de femmes. Est-ce que vous diriez, si on s'arrête justement sur la santé féminine, qu'il y a des périodes de la vie des femmes qui sont particulièrement propices à certaines infections, à certains troubles?
Ah, tout à fait. Les infections urinaires, il y a deux périodes de la vie chez la femme où elles vont être beaucoup plus importantes. Il y a le démarrage de l'activité sexuelle avec les rapports sexuels qui vont favoriser, pour des raisons anatomiques, les cystites. Et ensuite, il y a la période de la ménopause où là, il va y avoir de la sécheresse au niveau du vagin qui est liée à la carence hormonale liée à la ménopause qui, elle aussi, va favoriser la survenue des cystites. Voilà.
Et donc, à ces périodes, si jamais on a un trouble, il ne faut pas hésiter à aller consulter. Il y a aussi, tout à l'heure, on parlait d'incontinence. On a dit après la grossesse, mais c'est vrai que pendant la grossesse, beaucoup de femmes enceintes se retrouvent de temps en temps un petit peu au pied du mur dans des situations parfois assez angoissantes parce qu'il y a une envie absolument urgente d'uriner.
Tout à fait. Alors, c'est aussi le bébé. En fait, ça, ces envies pressantes, elles sont transitoires. C'est parce qu'on a l'utérus qui augmente de taille et qui appuie sur la vessie. Donc, la paroi de la vessie ne peut pas contenir autant que d'habitude. Et malheureusement, on demande aux femmes enceintes de boire beaucoup d'eau pour éviter les infections urinaires. Et donc, c'est pour cela qu'elles vont faire pipi très fréquemment. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, c'est transitoire. Une fois que la grossesse est terminée et que le bébé est sorti, les choses rentrent dans l'ordre. Il ne faut pas avoir d'inquiétude par rapport à ça.
Et on a bien compris par rapport à ce que vous venez nous expliquer au cours de toute cette émission, qu'il y a à la fois des cas où il y a besoin d'un traitement, y compris des antibiotiques, mais il y a aussi toute une série de conseils du quotidien, de la vie de tous les jours. Par exemple, les cystites, c'est une infection qui est très fréquente chez les femmes. Il y a les antibiotiques, mais il n'y a pas que les antibiotiques, il y a la vie qui va avec, qui va être absolument essentielle pour améliorer la situation.
Ah, tout à fait, c'est très important d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors ça va passer par, il faut impérativement boire 2 litres de boisson par jour. Alors ça comprend de l'eau, ça comprend le thé, le café. Pourquoi ? L'idée c'est de permettre de laver. Et donc en fait, le fait de boire 2 litres de boisson, on va aller faire pipi fréquemment. Et c'est important de ne pas se retenir, on doit aller vider sa vessie toutes les 2-3 heures. De même que il faut lutter contre la constipation. C'est important d'avoir un transit régulier parce que sinon, quand on est constipé, on a une modification de la flore au niveau de la sphère génitale. Et du coup, lorsqu'il y a un rapport sexuel, ça peut favoriser la cystite. De même que c'est très important pour les femmes, lorsqu'elles ont un rapport sexuel, d'aller uriner dans les 10 minutes. Il ne faut pas faire pipi avant, hein, ça ne sert à rien parce qu'au contraire, ça permet d'avoir des urines. Et comme ça, lorsqu'il y a eu le rapport, après, on va uriner. Donc, on a quelque chose à éliminer. Ça doit être fait dans les 10 minutes après le rapport sexuel. C'est également important de ne pas porter de vêtements trop serrés. Voilà.
Il y a des gestes de prévention aussi parce que, évidemment, quand on a une crise, on court chez le pharmacien aujourd'hui, puisque c'est possible en France, ou on court chez son médecin pour avoir une prescription. Mais au long cours, est-ce qu'il y a certains produits non chimiques qui permettent d'améliorer la situation ?
Oui, on a les plantes avec notamment le cranberry. Le cranberry, c'est un antiseptique naturel qui va être sécrété dans les urines et qui va empêcher l'Escherichia coli, qui est le germe le plus fréquemment retrouvé dans les infections urinaires, de s'accrocher sur la paroi de la vessie.
Mais pas en boisson, hein, ça sert à rien de boire litres de parce que là, on va prendre du sucre, mais pas de.
En boisson, il faut boire 3 à 5 litres pour que ce soit efficace.
On n'en peut plus. Hein.
Et les petites baies, c'est pareil, c'est que du sucre. Il faut vraiment acheter les concentrés en pharmacie. Et la quantité suffisante, c'est 36 mg. Et à prendre le soir, parce que c'est sécrété du coup. La nuit, on va moins faire pipi. Donc, du coup, il y en a beaucoup. La teneur est plus importante au niveau des urines. Et donc, le matin, l'Escherichia coli n'a pas pu s'accrocher et on l'élimine en allant faire pipi le matin.
Un dernier message pour boucler la boucle, docteur Sabrina Benbouzid, pour revenir à cette difficulté d'aborder ce genre de problème de santé. Le mieux, c'est quoi ? C'est d'en parler à qui ? Déjà, quand on est une jeune fille, en parler peut-être à sa maman, demander conseil à ses amis, mais même d'aller voir le généraliste, c'est là qu'on peut trouver la première solution ?
Tout à fait. Le généraliste va déjà faire un débrouillage. Il va prescrire une analyse d'urine, il va prescrire une échographie, et ensuite... c'est lui ensuite qui va vous conseiller d'aller voir un spécialiste. L'important, c'est d'avoir quelqu'un du milieu médical qui vous écoute et qui ensuite vous fait des investigations pour voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent favoriser ces troubles et surtout après vous aider à trouver une solution.
C'est ce qu'on a bien entendu au cours de cette émission. Les solutions, elles existent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos auditeurs. Docteur Benbouzid, je rappelle que vous êtes chirurgienne urologue à l'hôpital Tenon à Paris. Alimentation, nutrition, on en parle tout de suite dans Priorité Santé avec vous. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Alors, il y a quelques mois, de nouveaux résultats scientifiques sont venus renforcer les preuves de l'impact dramatique qu'a le réchauffement climatique sur la production de certaines céréales en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous présenter, Stéphane, les grandes lignes de cette étude ?
Alors, c'est une étude déjà qui a été publiée par une prestigieuse revue, la revue Nature. Elle a été réalisée par 2 chercheurs français. Donc, c'est une étude faite par l'équipe de l'IRD avec une unité de recherche qui s'appelle Espace Dev et une équipe japonaise. Donc, quelque chose qui est international de très bon niveau. Donc, c'est une très, très belle étude et qui a pris un prisme un peu différent. Depuis de nombreuses années, les gens regardaient un peu qu'est-ce qui va se passer dans le futur à cause du réchauffement climatique. Et eux ont décidé à un moment de regarder plutôt la situation passée et présente pour se dire qu'est-ce qui se passe déjà, est-ce que c'est déjà inquiétant avant de regarder devant nous. Alors pour ça, ils ont étudié la situation en Afrique de l'Ouest durant une période de 10 ans, de 2001 à 2009. Et pour réaliser ce travail, ils ont utilisé 2 simulations très simples. La première qui est de regarder le climat et son impact sans impact, j'allais dire, de l'activité humaine, enfin un impact classique. Et puis la deuxième chose, ils ont regardé en intégrant les émissions de gaz à effet de serre, ils ont regardé qu'est-ce qui se passait avec cet impact de l'homme au cours de cette décennie.
Alors qu'est-ce que ces chercheurs ont pu constater ?
Ah ben là, c'est très inquiétant du coup, parce que ce qu'ils ont regardé montre un impact très très fort sur les productions agricoles, mais aussi du coup sur un impact économique aussi très fort sur les producteurs et sur les économies des pays. Alors les chercheurs, si on reprend la conclusion de cette étude, ils disent que durant la période de l'étude, les températures ont augmenté de 1 degré en Afrique de l'Ouest et les orages et les pics de chaleur qui sont liés à ces dérèglements ont été beaucoup plus fréquents. Et tout ça pour l'agriculture, bah, ça montre que les conditions ont été dégradées et qu'il y a une baisse des rendements très forte. Alors si on prend les céréales très présentes en Afrique, le mil a baissé de 10 à 20%, 5 à 15% pour le sorgho. Et d'un point de vue économique, ça fait des pertes qui vont de 2 à 4 milliards pour le mil et de 1 à 2 milliards pour le sorgho.
Et là où vous parlez en dollars.
En dollars, tout à fait. Et donc du coup, et cette étude corrobore totalement une étude qui avait été publiée en 2012 et qui estimait qu'en Afrique, d'ici 2050, les pertes de rendement seraient de 17% pour le blé, moins 5% pour le maïs, 15% pour le sorgho et 10% pour le mil. Et avec une baisse qui est déjà effective aujourd'hui de 10 à 15%, on se rend bien compte que ces résultats du futur vont être bien pires et que l'impact attendu peut être dramatique à la fois au niveau économique, mais aussi pour les populations, parce qu'il ne faut pas oublier que les céréales servent à nourrir de grandes quantités de populations.
Alors, pourquoi la production et la consommation de céréales sont-elles aussi importantes? On imagine la réponse quand on sait comment on mange en Afrique, mais pourquoi c'est vraiment absolument essentiel?
Alors, les céréales, déjà, il faut rappeler que c'est de la famille des végétaux, qu'il y en a une grande quantité, et que quand on va dire le nom, tout de suite, on voit que c'est effectivement le quotidien de tout le monde. C'est le blé, c'est l'avoine, c'est le maïs, le mil, le sorgho, le riz, le quinoa dans certaines autres régions, le fonio pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, ils sont mangés, c'est soit les grains, ça va être la farine, ça va être le couscous aussi, qui va être donc, c'est une base alimentaire pour énormément de cultures. Ça, c'est le côté, j'allais dire, culturel où tout le monde en mange. Maintenant, sur le plan nutritionnel, leur composition, elle est très riche en glucides, en sucre complexe qu'on appelle l'amidon, ce qui va en faire une très très bonne source énergétique et qui est un peu la base énergétique pour de nombreuses cultures. Et en Afrique, elles sont encore plus importantes parce que leur niveau de consommation les rend complètement indispensables pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Et le deuxième chose qui est un peu inquiétant, c'est que la consommation de céréales est en forte croissance en Afrique et déjà aujourd'hui, la consommation est supérieure aux capacités de production. Il y a beaucoup de pays qui importent des céréales. Donc on comprend bien que si la production céréalière venait à baisser, eh ben on va avoir un gros problème de ce qu'on appelle la sécurité alimentaire et la capacité des gens à avoir suffisamment et d'éviter des périodes de famine. Il est donc vraiment important d'agir très rapidement pour ne pas mettre en danger des populations entières ou ce qui peuvent avoir des conséquences dramatiques.
Alors justement, est-ce qu'il y a des solutions en vue? Quelles pistes d'action pour éviter une éventuelle catastrophe?
Alors, la première, j'allais dire, c'est celle qui fait un peu rêver sur tous les domaines, c'est-à-dire de réduire les émissions de CO2 et d'avoir des vraies politiques qui vont permettre ceci et qui vont améliorer ça, mais plein d'autres choses aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir que pour la première fois, dans le prochain rapport du GIEC, le groupe d'experts sur le climat, ces données-là sur climat et agriculture vont être agrégées au rapport pour montrer que l'impact, il est aussi là-dessus et que l'alimentation peut être mise en danger par le réchauffement climatique. Donc ça, c'est très intéressant. Et maintenant, si on revient à quelque chose de plus spécifique aux céréales, il y a une vraie urgence pour les agronomes à travailler sur des variétés qui vont plus résister à la chaleur et aux augmentations de température et surtout qui vont continuer à augmenter. Donc, il va falloir faire un travail très important pour trouver des espèces qui vont résister aussi à des températures qui continuent à augmenter. Et il va aussi falloir rapidement développer des solutions directement avec les agriculteurs, revenir vers des pratiques locales que les communautés peuvent adapter et des innovations et des adaptations technologiques pour aider les gens à faire face et pas rester juste avec simplement de la pratique avec des variétés qui vont, elles, souffrir très fortement de la chaleur et on va juste constater les pertes au bout d'un moment. Donc il est important aussi là-dessus de travailler avec les communautés, d'être innovant et d'arriver à canaliser ceci le plus rapidement possible.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est tout Samaki, Ophélie Lassène, Didier Bleu et aujourd'hui Alice Ménard. Demain, nous allons parler de la prise en charge de l'anémie associée à la drépanocytose, cette maladie génétique qui affecte l'hémoglobine. Comment l'expliquer? Comment améliorer surtout la qualité de vie des patients drépanocytaires? On se retrouve demain pour en parler. À demain. D'ici là, portez-vous bien et on se lave bien les mains.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Sunois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunois Assurance. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance.